Donc, je suis partie d'un constat initial, celui d'un décalage entre donc un discours ou des discours et surtout des modèles dominants en matière de développement économique régional. Un discours sur lequel je vais revenir. Et donc, décalage entre ce discours, ce modèle, et finalement, un constat, celui d'une revitalisation des espaces ruraux que l'INSEE a appelé un temps profond ou des espaces ruraux isolés. En tout cas, cette idée de dire qu'on a des territoires qui sont plus ou moins isolés, en tout cas à l'écart des processus de métropolisation, hein, à l'écart de l'influence urbaine, et qui connaissent une revitalisation, alors démographique, de l'emploi, des revenus, je vais un peu y revenir, une diversification socio-démographique également. Et finalement, les théories dont on dispose peinent, hein, sont insuffisantes pour expliquer ce renouveau rural. Alors, quand je parle des modèles, des théories dont on dispose en termes de développement, d'analyse du développement régional, d'économie géographique, si vous voulez, on est quand même vraiment face à une masse de travaux sur les processus de métropolisation, les processus d'agglomération, alors qui donnent lieu, hein, à certaines forces centrifuges qui expliquent la périurbanisation, mais on est quand même énormément focalisé sur ces histoires donc de concentration, hein, des activités économiques, de polarisation des activités économiques. Et finalement, si on écoutait donc, hein, que ces travaux-là, alors je pense évidemment aux travaux de la nouvelle économie géographique et de Krugman, hein, prix Nobel 2008, c'était, d'économie. Donc évidemment qu'il y a un retentissement énorme dans notre discipline. Si on ne regarde que ces travaux-là, bon, on a quand même du mal à expliquer, hein, ce qui se passe dans nos espaces ruraux. Autre remarque, une notion importante aussi dans ce travail, c'est la notion de ressources, qui est au cœur, hein, de cette nouvelle géographie du développement rural, des ressources donc qui sont diverses, qui renvoient justement à des postulats théoriques et empiriques distincts, trop souvent analysés séparément. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de montrer qu'on était face à un peu un manque théorique et conceptuel pour comprendre la revitalisation des espaces ruraux d'un point de vue économique, hein, ou de géographie économique, et que finalement, on dispose de choses, mais qui sont trop souvent séparées, distinctes de champs, hein, intellectuels, même si c'est dans la grande famille de l'économie régionale, qui sont jamais étudiées conjointement, et c'est dommage. Ces cadres théoriques, hein, on a trois grandes familles, finalement, pour comprendre cette économie géographique. Alors, on a évidemment ce qui est dominant, je vous disais, hein, ce qui a pris le dessus depuis une vingtaine d'années en termes de travaux de recherche, mais aussi de discours d'acteurs, hein, la data, tous les travaux sur les métropoles, etc. Bon, voilà. Donc, c'est la nouvelle économie géographique. Donc, ces travaux-là ne s'intéressent pas ou ne permettent pas de comprendre entièrement ce qui se passe dans les espaces ruraux aujourd'hui, mais quand même, on trouve dans ces travaux des choses intéressantes pour comprendre des éléments qui ont à voir avec le système productif générique, hein, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de l'industrie. Dans les espaces ruraux, hein, ce maintien de l'industrie rurale, mais aussi donc ces phénomènes de périurbanisation qui gagnent petit à petit des espaces périurbains et ruraux, hein, qui sont de plus en plus éloignés des villes-centres, bon, avec des histoires de congestion, de coûts fonciers, etc., de postulats sur les industries dans les espaces ruraux. Donc on a des choses qui expliquent les systèmes productifs et la périurbanisation des hommes et des activités. Deuxième grande famille de travaux, alors plus connue en France que dans les pays anglo-saxons, mais enfin bon, c'est quand même une famille très présente en France, c'est tout ce qui va toucher au développement endogène, hein, l'étude cette fois-ci des systèmes productifs locaux, donc des systèmes productifs spécifiques qui sont territorialement ancrés. Là, je pense évidemment à tous les travaux développés notamment, hein, par Bernard Pecker, donc avec qui je travaille beaucoup puisque j'ai rejoint cette équipe-là à Grenoble. Les travaux sur la ressource territoriale, tout ce qui va tourner autour des productions de produits spécifiques, hein, qui ont un ancrage territorial très fort. Donc là aussi, ça apporte des billes un petit peu pour comprendre ce qui se passe dans le rural, mais on est plus sur des éléments qualitatifs que quantitatifs, c'est-à-dire que ces productions territorialement ancrées, ces productions de produits AOC, etc., c'est bon, Ok, c'est très bien, mais c'est pas ce qui explique aujourd'hui la revitalisation des espaces ruraux, clairement. Mais néanmoins, ça c'est d'un point de vue quantitatif, mais néanmoins il y a des choses qui se jouent sur l'image, hein, sur le marketing un peu territorial, autour justement de ces, c'est pas des nouvelles productions, hein, mais autour de cette valorisation de production spécifique, hein, de niche un petit peu sur des produits à forte connotation paysagère, environnementale, etc. Et puis, dernière famille qui est plus petite en taille, moins représentée, mais alors pour le coup, qui, on le verra, hein, qui est déterminante pour l'économie des espaces ruraux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle. On a aussi parlé de nouvelles fonctions, hein, de nos espaces ruraux, les fonctions résidentielles et récréatives. Donc là, beaucoup de choses sont dites et écrites depuis moins de temps, hein, on va dire depuis 10 ans, sans trop savoir toujours de quoi on parle. Et pour le coup, si je dois avoir une étiquette, c'est un peu l'étiquette de Madame Économie Résidentielle, puisque c'est vraiment un sujet sur que j'ai beaucoup investi depuis le début de ma thèse, puisque donc je travaille avec Laurent Davzy, qui est à l'origine de cette idée, etc. Bref. Donc on va un peu décortiquer, surtout la dernière partie en fin de présentation, mais voyez, on peut puiser, et c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, en tout cas essayer de puiser dans chacune de ces familles vraiment des éléments qui pouvaient être intéressants et importants pour comprendre le renouveau rural, essayer de mettre tout ça à plat, de l'objectiver, de le quantifier, de voir réellement quels sont les moteurs aujourd'hui de cette revitalisation rurale. Alors, je vous propose, comme plan, il y a des passages sur lesquels il va falloir que je passe vite, sinon je ne tiendrai jamais le temps imparti. Une première partie donc sur bon, ce renouveau rural, l'idée qu'on est plus sur un long processus de repeuplement plutôt que sur une rupture, c'est pas ce que l'on entend toujours, mais justement à tort. Un mot aussi, quelques éléments sur la périurbanisation, là aussi c'est des choses dont on nous parle beaucoup quand on travaille sur les espaces ruraux, et finalement, hein, est-ce que c'est le seul facteur de repeuplement rural, quel rôle jouent les migrations d'agrément, j'y reviendrai. Et puis une mutation socio-économique qualitative, là je passerai un peu rapidement, c'est un peu les chiffres, hein, de ce renouveau rural à la fois en termes de peuplement, d'emploi, de revenus, etc. Espace récréatif, la notion de présence, alors c'est un petit point, mais sur une notion qui est très importante et voilà, que je tenais à vous présenter, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis après, donc, un cadre théorique, hein, proposé, qui a été celui que, donc, que je mets en œuvre dans le cadre de ma thèse et de mes travaux depuis sur ces questions-là, qui permet donc de définir et de mesurer le poids de l'économie résidentielle dans les économies locales, dynamique territoriale et conclusion. Zonage en aire urbaine et espace rural, je passe vite, hein, donc moi j'ai travaillé sur ce que l'INSEE appelle l'espace à dominante rurale, hein, donc tout ce qui n'est pas gris sur cette carte, sachant que j'ai plus particulièrement travaillé sur ce que l'INSEE appelait avant le rural isolé. Alors isolé, c'était peut-être pas un bon terme, c'était censé être isolé de l'influence urbaine, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu la distinction. Vous voyez, maintenant, tout ce qui est en jaune, ça s'appelle haute commune de l'espace à dominante rurale. Et avant, c'est-à-dire en 2000, on avait une distinction entre une troisième couronne, finalement, autour de ces aires urbaines grises, qui était le rural sous faible influence urbaine, et puis encore le reste du rural. Bon. Apparemment, dans la prochaine version des aires urbaines qui vont sortir en septembre, tout ce descriptif du rural devrait être abandonné pour au profit de l'approche par les bassins de vie, qui finalement n'a rien à voir, hein, qui nous définit des périmètres avec toutes les limites de définir des périmètres, mais c'est un autre sujet. Alors, renouveau rural. Premier point de ma présentation, donc ça c'est pour moi, c'est des petites phrases mémo, exode rural, exode urbain, fantasme et inquiétude face à une dynamique pourtant tant attendue. En effet, ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur donc, ces questions de renouveau, de revitalisation rurale, c'était en 2003, début de ma thèse, 2004, et que pourtant, hein, en 2004, c'est pas si vieux, on pouvait lire encore, les résultats du recensement 99 étaient sortis, mais on pouvait lire dans certains rapports officiels ou dans des rapports j'ai beaucoup travaillé avec la poste, alors des rapports d'activité de la poste, des choses comme ça, on pouvait encore lire que bon, voilà, les espaces ruraux étaient touchés par l'exode rural, alors que quand même c'était fini depuis bien longtemps, hein, depuis plus de 30 ans. Donc voilà, donc on a continué à parler d'exode rural alors même que c'était plus d'actualité du tout. Et basculement, évidemment, le nouveau recensement, alors un peu 99 pour ceux qui avaient prêté attention, mais alors beaucoup celui de 2006, repeuplement donc des espaces que l'INSEE appelle les espaces ruraux. Et donc là, finalement, on trouve des articles, on lit, moi, il y a une thèse qui est en train de se faire à Paris 1 qui emploie ce thème-là, ce titre-là, etc. On parle d'exode urbain. Vous voyez, on dit, en quelques années, on passe d'un exode rural qui n'existait plus à parler d'exode urbain. Bon. Et on s'inquiète. On s'inquiète beaucoup face au repeuplement des espaces ruraux. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même une politique très volontariste d'aménagement du territoire. C'est une politique qui n'existe pas partout. Un aménagement du territoire qui vise donc à rééquilibrer, hein, nos territoires, justement, à faire du rééquilibrage entre Paris et le reste de la France, mais aussi entre l'urbain et le rural. Et finalement, quand on y arrive, enfin, quand les chiffres sont là pour dire, bon, ben voilà, ça y est, les espaces ruraux se repeuplent, etc., on se dit, oh là, au secours, pour de bonnes raisons, hein, sans doute, notamment des raisons environnementales, hein, de pression foncière, etc., sur ces espaces fragiles, hein, ces réserves naturelles. Bon, mais enfin, on est quand même très souvent dans l'exagération d'une part ou d'une autre, donc on va voir un petit peu. Pas revenir sur l'exode rural, hein, mais sur des tendances de longue période, et puis cette idée d'exode urbain, finalement, est-ce qu'elle est réellement fondée? Alors, dans le cadre donc, de ma thèse, je suis allée rechercher à la pêche aux données, c'était un peu fastidieux, mais j'ai réussi à récolter donc. L'ensemble des populations donc, historiques pour les 36 500 communes françaises, c'est-à-dire hein, les populations depuis 1870. Alors, c'est pas très historique peut-être pour vous, hein. Pour moi c'est très historique. 1870 jusqu'à 2006, voilà, ce qui me permet de voir les évolutions et une géographie de ces évolutions, mais ça c'est pas ce que je vous présente aujourd'hui. Là c'est juste des graphiques qui montrent, alors peut-être que vous c'est des choses que avec lesquels vous êtes habitués, mais il y a beaucoup de gens hein, qui parlent d'un renversement de tendance, d'une rupture par rapport au Lebras, par exemple, Hervé Lebras, hein, dans son dernier ouvrage, il est, et puis même si vous l'avez déjà entendu, il s'étonne, il ne revient pas, d'avoir ce repeuplement en 2006, les chiffres, alors bon, on peut s'étonner parce qu'il y a aussi un changement méthodologique de recensement, ça c'est autre chose. Mais comme si on avait vraiment un renversement de tendance, alors que finalement, donc là c'est par type d'espace, mais finalement quand on prend les évolutions sur une longue période, on se rend compte hein, qu'on a eu petit à petit un tassement du déclin de la population. Par exemple, si on prend autre rural, l'Orange, et puis un renversement, et puis petit à petit, hein, ça se remet à progresser. On n'est jamais en démographie sur des ruptures ou des chocs à ces échelles-là. On est sur des tendances de longue période. Ça, c'est la même chose, c'est les évolutions donc, de la population dans les communes par taille de communes. Alors là, ce qui m'avait amusé comme résultat, c'est que l'on se rend compte que les communes ne se sont pas globalement, après il faut faire une géographie évidemment de tout ça, des cartes de ces dynamiques, que les communes de moins de 2000 habitants ne se sont globalement jamais dépeuplées. Or, une des façons de définir le rural, c'est la définition des communes de moins de 2000 habitants. Hein, c'est-à-dire que le rural a été défini, alors hasard ou pas, par ce seuil de 2000 habitants, qui est un seuil qui caractérise les communes qui se sont dépeuplées. Si on change de seuil, alors là j'avais pris par exemple le seuil proposé par Mendras hein, dans les années 50, quand il y a eu une discussion autour de ce seuil pour définir les communes rurales, si on prend 15 000 habitants, c'est ce qu'il préconisait de mettre 15 000 habitants dans les années 50, bon, ben vous voyez, on aurait eu un tout autre discours sur le déclin, hein, l'hémorragie de démographie dans le rural. Parce que si on prend un seuil de 15 000 habitants, vous avez en bleu la population des communes urbaines, en vert la population des communes rurales, donc la population des communes urbaines n'aurait jamais rattrapé hein, la population des communes rurales. C'est la périurbanisation hein, derrière. Voilà, donc tout ça pour dire que les discours Et derrière les actions politiques et publiques et l'argent qui est mis en œuvre dans les territoires pour faire de l'aménagement et du développement local est quand même fortement conditionné et influencé par ces seuils statistiques et ces représentations territoriales. Deuxième point, donc je vous disais, alors bon, là je ne me suis pas étendue sur l'exode rural, mais deuxième point, donc on parle d'exode urbain et surtout, quand on parle donc de repeuplement des espaces ruraux, on parle beaucoup de périurbanisation. Et c'est ça qui inquiète d'ailleurs, c'est-à-dire que l'on se dit que les territoires ruraux se repeuplent parce que finalement les gens s'éloignent de plus en plus des villes-centres pour accéder à la propriété, pour accéder au pavillon qui fait rêver la majorité des Français avec le terrain, etc. Et que donc, ça va devenir de plus en plus intenable face à l'augmentation des coûts de la mobilité, des coûts de l'énergie. Bon, il y a beaucoup de travaux, de thèses là-dessus sur comment vont faire les populations dans les 10 ans à venir, ces populations qui s'installent dans des communes rurales et qui sont donc obligées de faire des navettes vers les pôles urbains. Ça, c'est ce qu'on nous sert. Alors, exode urbain. Donc là, donc c'est le dernier recensement, c'est les derniers chiffres de 2006. Donc on peut avoir dans le recensement le lieu. Donc les gens sont enquêtés. Enfin, je passe. C'est un peu compliqué parce que les dates d'enquête changent selon les communes, mais grosso modo, donc on demande aux gens où ils habitaient 5 ans avant. Et donc j'ai fait un regroupement statistique par type d'espace. Avec donc en haut, vous avez le lieu de résidence 5 ans avant, la date d'enquête, pour ceux qui ont changé de résidence, ceux qui ont changé de commune, pardon. Et en ligne, donc, le lieu de résidence en 2006, en tout cas la date d'enquête. En haut, c'est les millions, les chiffres, le nombre de personnes qui ont changé de commune et qui ont changé ou pas d'espace. Donc, vous avez 13 millions de mobilité, de personnes qui ont changé de commune au cours des 5 dernières années. Et en bas, vous avez le tableau en pourcentage, qui est évidemment plus lisible. Donc, vous voyez, le gros de ces mobilités résidentielles, 43,5%, ça se passe à l'intérieur même des pôles urbains. D'un pôle urbain à un autre, ou un changement de commune au sein du même pôle urbain, mais c'est quand même un phénomène d'abord urbain. Et après, alors, on ne va pas tout passer en revue, mais si on additionne donc le départ en effet des espaces urbains vers les espaces ruraux, ça représente à peu près 10%, 10% des mobilités résidentielles de ces 5 dernières années. Alors 10% de l'ensemble des mobilités françaises sur les 5 dernières années, ça ne permet pas de parler d'exode urbain. Il n'y a pas de déménagement du territoire, il n'y a pas une vague de gens qui quittent les pôles urbains, le périurbain, pour s'installer dans les espaces ruraux. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est négligeable. C'est-à-dire que ça dépend d'où où on se place. C'est-à-dire que globalement, d'un point de vue un peu macro ou national, donc c'est 10% des mobilités résidentielles, pas d'exode urbain. Par contre, pour les espaces d'accueil, c'est-à-dire pour les espaces ruraux qui accueillent, c'est néo-ruraux, avec des grands guillemets, ces urbains qui décident donc de s'installer dans les campagnes, dans les espaces ruraux, pour les espaces d'accueil, ça a un impact important. Parce que, vous voyez, allons directement aux chiffres entourés en rouge, c'est le poids des urbains, donc des gens qui ont quitté un pôle urbain ou périurbain pour s'installer dans une commune de l'espace rural, là, depuis en moins de 5 ans, en moins de 5 ans. Et donc, ça représente déjà 12% de la population de ces communes-là. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en moins de 5 ans, les urbains installés dans les espaces ruraux représentent 12% de la population rurale. C'est énorme et c'est rapide. C'est pas 5 ans parce que il y en a qui... C'est où étiez-vous il y a 5 ans ? Donc, on peut être installé depuis un an. Donc, c'est en moyenne 2-3 ans. Donc, en 2-3 ans, c'est 12% de la population. Donc, il n'y a pas d'exode urbain, mais il y a il y a un choc externe pour les espaces ruraux. Bref, donc ces analyses-là, elles sont pas forcément originales. Elles avaient été faites, en tout cas déjà en 1999, par l'INRA ou par l'INSEE. Et c'est face à des analyses comme ça, ce type de tableau, comme celui d'avant, où on voit les transferts des pôles urbains, du périurbain vers le rural, etc., que l'on arrive donc à ces propos. Alors ça, vous avez plein d'INSEE premières hein, de ce type-là, sur ce mode-là, d'inquiétude donc face à la périurbanisation des mobilités résidentielles, donc toujours plus loin de la ville-centre. C'est-à-dire quand on dit on quitte des urbains, on quittait des pôles urbains, du périurbain pour s'installer dans le rural, on a une représentation qui fait que on se dit que c'est forcément du desserrement du centre vers les périphéries hein, pour l'accession à la propriété, etc. Alors évidemment qu'une partie de ces mobilités sont du desserrement urbain. Hein, c'est des jeunes, enfin ou des jeunes, pas des jeunes, mais des couples d'actifs, souvent avec enfants, qui s'installent hein, plus loin pour accéder, donc ce que je vous disais, à la propriété ou à plus d'espace, etc. Néanmoins, ce n'est pas la majorité. Et ce que j'ai fait, donc je l'avais fait dans ma thèse sur les chiffres de 99, là je viens de le refaire donc sur le dernier recensement, c'est que j'ai regardé en fait la distance parcourue en effet par ces gens qui ont changé de commune hein, et changé d'espace de vie pour voir si on était en effet dans du desserrement urbain, c'est-à-dire dans la proximité, enfin une mobilité résidentielle de périurbanisation, ou au contraire sur une mobilité résidentielle de longue distance qui n'a pas grand-chose à voir avec du desserrement urbain, en tout cas dans le côté, hein, je garde le même travail mais je vais toujours plus loin m'installer en périphérie. Et donc on voit, donc vous avez en bas la distance parcourue, en ordonnée donc le pourcentage de gens concernés, au total chaque ligne fait 100%, et par exemple vous voyez quand on change, on part d'un pôle urbain, on va dans le périurbain, on va regarder les roses, vous avez 25% des gens qui ont quitté un pôle urbain pour s'installer dans le périurbain, 25% qui ont parcouru moins de 10 km, plus presque 40% qui ont fait entre 10 et 30 km, etc. Par contre, si on regarde dans les espaces donc dits ruraux, hein, pôle rural, rural sous faible influence urbaine et notamment rural isolé, vous voyez que les courbes n'ont pas du tout la même allure et que finalement, on a une majorité, c'est 40% pour plus de 200 km, mais si je commence à additionner par exemple à 100, on a une majorité, enfin une majorité, 50%, pardon, la moitié, donc de ces migrants urbains qui ont parcouru plus de 100 km. C'est-à-dire que donc le repeuplement, enfin, l'attractivité migratoire des espaces ruraux qui explique leur repeuplement est due pour moitié, en effet, à un phénomène de desserrement du centre vers les périphéries, mais pour moitié à un autre type de migration, hein, des migrations de longue distance qui... Bon, pour la plupart, hein, là, il y a des travaux plus sociologiques sur ce qu'on appelle les migrations d'agrément, c'est-à-dire sur des motivations qui ont à voir avec un changement de cadre de vie total. Hein, on ne garde pas son emploi et on fait tous les jours 200 km pour aller travailler. Hein, c'est pas ça. C'est on change de cadre de vie, on change d'emploi, ou on est retraité, donc on va s'installer dans sa résidence secondaire. Il y a plusieurs formes de migrations d'agrément et plusieurs motivations à ces migrations dites d'agrément, mais en tout cas elles sont, donc on connaît d'un point de vue sociologique, hein, il y a pas mal de travaux, enfin, surtout aux États-Unis, mais ça se développe un peu en France, sur les profils de ces migrants d'agrément, de ces gens qui décident donc de changer de cadre de vie, s'installer dans le rural, les motivations, etc., mais il n'y avait pas d'approche quantifiée. Ça, c'est une approximation, en tout cas on peut dire qu'on est sur des choses qui ne sont pas négligeables en termes de poids des mobilités. Et en termes de localisation, ça donne ceci, c'est-à-dire que vous avez, donc c'est la part hein, des personnes qui ont quitté un pôle urbain situé à plus de 100 km de la commune d'installation, dans le total donc des personnes installées dans ces communes, qui sont venues s'installer dans ces communes. Et donc vous voyez la trame orangée, alors bon, j'ai mis 48%, j'aurais mieux fait de mettre 50%, ça n'aurait pas changé ma carte. Donc dans les territoires, dans les communes, c'est une carte à l'échelle communale, dans les communes où la trame est orangée, vous avez, disons, un immigrant urbain sur deux qui a parcouru donc plus de 100 km, hein, qui n'est pas dans une démarche de desserrement de centre vers la périphérie, qui est dans une autre démarche d'installation. Ces migrants de longue distance, hein, ces urbains qui ont parcouru plus de 100 km pour s'installer dans le rural, ben, comme je vous disais, hein, ils pèsent un poids qui n'est pas négligeable dans la population, puisque ça, c'est toujours pareil, c'est en moins de 5 ans. Vous voyez, sur les trames, hein, on va dire orangées, on est à 5, 6, voire plus de 8% de la population de ces communes-là qui sont représentées par ces migrants urbains de longue distance. Et ça, donc, c'est une typologie faite à partir de ce type de calcul des communes, donc des espaces ruraux, enfin des communes des espaces hors aire urbaine, en fait, c'est pas exactement espaces ruraux. Donc en orangé, donc finalement, vous pouvez avoir quatre cas de figure. Vous pouvez avoir des communes qui sont très attractives auprès de ces migrants de longue distance, hein, de ces gens qui changent de vie et qui sont attirés, on voit hein, la géographie clairement, par des aménités hein, paysagères, environnementales. Donc on peut être attractif auprès de ce type de migrants, mais aussi auprès de migrants périurbains. C'est mes territoires en orangé, hein, c'est souvent les périphéries de métropoles très dynamiques, hein. Nantes, Bordeaux, le sud-est aussi. En orangé, par contre, ce sont les communes qui, elles, donc, connaissent un repeuplement par une attractivité migratoire qui est surtout faite d'une attractivité migratoire auprès de ces migrants de longue distance. Donc on vient s'installer pour le cadre de vie, etc. Dans le Limousin, il n'y a pas de saturation hein, de Guéret ou de Brive, hein, c'est pas pour ça qu'il y a une attractivité migratoire autour de ces communes-là, c'est une attractivité migratoire qui a à voir avec autre chose que du desserrement urbain. Hein. Bleu foncé, donc là on est par contre dans les territoires qui sont vraiment marqués par la périurbanisation, c'est autour des grandes métropoles, hein. Enfin Lyon, Paris surtout, Île-de-France. Et puis en bleu, c'est les territoires qui ne sont pas attractifs, hein, ni auprès des périurbains, ni auprès des migrants de longue distance, qui ont des soldes naturels négatifs. On ne distingue pas bien les bleus, mais il y a une forte concentration dans le nord et dans le nord-est de la France. Je vous ai parlé de ce repeuplement par migration. Je dis mutation socio-économique qualitative. Alors, je mets des guillemets, ce n'est pas au sens de qualité, mais c'est pour bien marquer le fait que ce qui se joue aujourd'hui dans les espaces ruraux, alors c'est un choc externe par une arrivée de population qui n'est pas négligeable, mais c'est surtout une arrivée de population qui a un profil tout à fait différent hein, de ceux qui étaient, bon, habituellement en tout cas, qui peuplaient habituellement les espaces ruraux. Donc on a une augmentation rapide des revenus, on a bon, des CSP qui progressent rapidement, même s'ils restent sous-représentés, mais on a des cadres qui s'installent dans ces espaces-là, alors que d'habitude, bon, c'était pas les premiers types de migration. On a une augmentation, par exemple, plus rapide des moins de 18 ans que des plus de 60 ans. Donc là aussi, on parle de vieillissement. Évidemment, il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans dans les espaces ruraux, mais si on regarde en termes de dynamique, on a une augmentation plus rapide des jeunes hein, que celle des retraités. Donc on n'est pas vraiment dans cette accentuation, en tout cas, de la part des plus de 60 ans dans la population. Bon, des chiffres, hein, là je vais passer vite. Donc en termes de population, vous voyez, la population dans les espaces ruraux a progressé de 4,8%, ce qui est plus que celle des pôles urbains, moins que le périurbain. Le solde naturel reste négatif, mais il s'améliore rapidement, notamment parce qu'il y a une arrivée de population plus jeune. Les soldes migratoires, par contre, eux, sont très positifs, hein, quasiment au même niveau que ceux du périurbain. Ça c'est nouveau, hein, l'accélération à ce point-là des migrations vers les espaces ruraux, qui ne sont pas que des migrations périurbaines, hein, je le redis. Répartition des emplois, blablabla. On a une augmentation rapide des emplois, parce que beaucoup pensent aussi que ce dynamisme démographique finalement ne s'accompagne pas d'un dynamisme économique, ce qui est faux. Ça s'accompagne aussi d'un dynamisme économique, et justement parce que on n'est pas que dans de la périurbanisation, c'est-à-dire on n'est pas que dans de la zone résidentielle, cité dortoir, on est aussi dans des gens qui viennent s'installer, qui créent leur activité, ou des retraités qui s'installent avec une demande et des besoins peut-être et un niveau de revenu aussi supérieur à ceux des locaux, on va dire, qui crée hein, une demande et une dynamique économique importante. Des niveaux de revenus, des revenus par habitant qui sont plus faibles que dans les autres espaces, qui restent plus faibles, mais qui progressent plus rapidement. On a une convergence des niveaux de revenus rapide. Et puis, on a évidemment une caractéristique forte de ce que sont nos espaces ruraux français, à savoir des territoires touristique où la part des résidences secondaires est énorme. On dit la France est le premier pays des résidences secondaires au monde. C'est pas la France, c'est les espaces ruraux français qui sont caractéristiques de nos résidences secondaires, puisque un logement sur quatre dans l'espace rural est une résidence secondaire et que cette part progresse. Elle progresse pas parce que les gens s'en vont et que les résidences restent vides. On construit des résidences secondaires, on aménage des logements vacants, on rénove et ça devient de la résidence secondaire. Il y a une dynamique vraiment de demande de résidences secondaires. Ce qui est intéressant parce qu'on sait que l'installation à l'âge de la retraite dans ces espaces-là est fortement conditionnée par la possession d'une résidence secondaire, hein, comme a pu le montrer Françoise Cribier ou d'autres travaux aussi de sociologues. Ça, c'est un slide sur les revenus, mais c'est juste pour vous dire qu'on est toujours en train de travailler sur du revenu déclaré aux impôts. C'est la première colonne, c'est la source de revenus sur laquelle on travaille en France, c'est la source de revenus DGI. Et que finalement, cette source de revenus qui est intéressante, hein, qui est fort utile, ne prend quand même pas en compte toute une partie des revenus, c'est-à-dire tout ce qui va être revenu de transfert, on enlève les impôts locaux, etc. Et bref, j'ai calculé un revenu disponible brut à la commune, que là, je vous livre par type d'espace, mais qui permet de travailler sur des revenus plus justes que les revenus déclarés aux impôts. Et on voit hein, que l'écart entre le revenu disponible brut, c'est-à-dire le revenu dont disposent les ménages pour consommer, se déplacer, pour se loger, faire ce qu'ils veulent, l'écart entre ce revenu, quelque part, qui est plus proche hein, du revenu réel, et le revenu déclaré sur lequel on travaille est très important dans les espaces ruraux, qui sont des espaces qui bénéficient énormément des revenus de transfert, des revenus sociaux. Hein, donc on voit le Languedoc-Roussillon apparaître, le Nord-Pas-de-Calais aussi, mais plus globalement, hein, les espaces ruraux qui bénéficient de ces revenus de transfert, de cette redistribution de revenus hein, publics et sociaux. On a un repeuplement, donc, mais avec surtout une diversification des habitants, progression plus rapide des 18 des moins de 18 ans plus que celle des plus de 60 ans, des CSP qui jusque-là étaient peu représentés, qui progressent rapidement, comme les cadres, les employés. Fait marquant aussi, et là on voit bien les mutations, c'est-à-dire qu'on a un essor, une évolution très forte des non-salariés, et qui évidemment n'est pas celle des agriculteurs, mais qui au contraire, quand on détaille les secteurs d'activité, on se rend compte finalement qu'on a assisté hein, à un déclin, même si l'industrie rurale se maintient. Bon, on a quand même plutôt un déclin des activités productives traditionnelles, l'agriculture, mais aussi de l'industrie plus classique, le textile, hein, des choses comme ça, ou la chaudronnerie, enfin, des secteurs d'activité comme ça. Donc déclin des activités productives traditionnelles, essor de l'économie résidentielle, hein, c'est-à-dire d'activités qui vont être liées à la présence de personnes qui consomment localement. Donc c'est des services aux personnes, c'est du social, c'est du médical, mais c'est aussi de la construction du commerce, du tourisme, et c'est aussi du service aux entreprises, hein, du type consultant, les professions libérales, tout ce qui est dans le secteur, donc non salarié, lié à du consulting possible à distance, hein, maintenant, évidemment, avec Internet, etc. Voilà. Bien, donc là, j'ai parlé beaucoup enfin, les chiffres de l'INSEE sont intéressants, évidemment, mais on est sur une notion qui est la notion de résidence. Et je voulais profiter de ce séminaire ouvert justement à des doctorants pour introduire la notion, qui me semble une notion importante, qui est la notion de présence, que l'on doit à Christophe Terrier, qui a travaillé donc toute sa vie administrateur à l'INSEE et qui a été détaché au ministère du Tourisme quelques années. C'est à lui qu'on doit justement les bases données de domicile-travail, la carte des territoires vécus, le zonage, il a l'origine du zonage en aire urbaine, etc., et de cette notion de présence. Donc, on est toujours, alors quand même pour la petite histoire, donc on raisonne toujours hein, sur cette idée de population résidente, recensée. Et finalement, pour un certain nombre d'analyses, ce qui est plus important, c'est pas tant la population recensée, mais c'est la population effectivement présente dans le territoire. Et notamment, ces travaux-là et les chiffres que je vais vous montrer ont été réalisés à la demande du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé, qui se sont demandé si une attaque bactériologique a lieu en France, c'est rassurant, au mois d'août ou au mois de février, ce n'est pas la même chose. Donc, où faut-il placer les vaccins pour répondre au mieux à une attaque selon justement la fluctuation saisonnière des populations? Donc, le ministère du Tourisme, qui a les bases de données pour savoir où sont les personnes, en tout cas, qui sont absentes plus d'une nuit en dehors de chez elles, les touristes, a calculé donc les taux, la population effectivement présente jour par jour en France, dans tous les départements français. Et donc là, vous avez un taux de présence, c'est-à-dire que vous avez le rapport entre la population effectivement présente et la population résidente. La population effectivement présente, c'est la population recensée, celle sur laquelle on travaille tout le temps, plus les touristes, moins les résidents absents, en touristes ailleurs. Et je redis, un touriste, c'est quelqu'un qui passe une nuit au moins en dehors de chez lui. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis touriste ici. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le motif pour lequel on se déplace. Bien, et donc ce rapport de taux de présence, il est en indice base 100. Grosso modo, ça veut dire que les territoires en bleu qui ont un indice inférieur à 100 sont des territoires où la population réellement... Et on fait la somme de tout ça sur une année. Et on regarde combien vous avez eu de population sur une année effectivement présente dans votre territoire. Les départements en bleu sont des départements où la population effectivement présente à l'année est inférieure à la population recensée. Inversement, les populations en orange sont les territoires où la population présente est largement supérieure, plus ou moins largement supérieure à la population recensée. Ça donne des images intéressantes. Paris est en bleu clair. C'est-à-dire que Paris, qui est la première destination touristique en France, a un taux de présence de 100, quasiment 100, c'est-à-dire que l'attractivité touristique de Paris compense à peine, enfin ne suffit pas à compenser en réalité, le départ des Parisiens en dehors de Paris. Après, vous avez des territoires qui sont sur des taux de présence très très importants, ce ne sont pas les territoires les plus touristiques, même s'ils ont des taux de présence importants, ce sont les territoires ruraux, parce que vous avez beaucoup de gens qui viennent, les ruraux partent finalement peu en dehors de leur département en vacances, et ça vous fait des taux de présence importants. Donc ça, c'est les chiffres du ministère du Tourisme au département, disponibles en ligne, etc., gratuitement. Et donc ça, c'est une estimation de ces taux de présence à la commune que j'ai réalisée, parce qu'on ne peut pas travailler à l'échelle... moi, je ne travaille pas à l'échelle du département, donc il me fallait des données communales pour pouvoir après agréger et travailler sur les échelles territoriales auxquelles je travaille habituellement. Et donc, on voit sur les mêmes résultats, sauf que c'est plus fin, et on voit apparaître vraiment les espaces ruraux qui ont des taux de présence très élevés, ce qui est majeur. Moi, j'ai fait ce travail pour avoir réalisé un diagnostic justement sur le développement des espaces ruraux, sur de la Lozère, ou travailler pour la région Limousin, etc. Quand on sort ça et quand on donne ça aux acteurs locaux, ils s'en emparent et ils savent quoi en faire. C'est-à-dire que la Lozère, quand on leur dit que finalement, au bout d'un an, c'est pas 70 000 personnes qu'il y a dans ce département, c'est 90 000 personnes qui consomment, qui se déplacent, etc. C'est énorme en termes de besoins d'infrastructures, de gestion, tout simplement des infrastructures locales pour une collectivité, pour une région, pour un département, etc. Bien, et je m'étais amusée, toujours pareil, à calculer par type d'espace la population réellement présente. Ça, c'était dans ma thèse, donc c'est en 2003. Depuis, j'ai fait les calculs sur 2005. Et regarder donc à quel niveau de population ça équivaut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans les espaces ruraux, par exemple, isolés, si on prend la population résidente, on se dit, bon, on est encore largement en dessous des seuils que l'on connaît pour lesquels on sait que les espaces ruraux étaient très vivants, etc. Bon, si on compte maintenant cette population présente, si on intègre le fait que les gens sont mobiles aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a autant de gens présents à l'année, alors avec une saisonnalité, évidemment, que dans les années 50. Qu'une fois qu'on a posé un petit peu à plat toutes ces dynamiques, ces évolutions en cours, je voulais quand même essayer de comprendre et d'avoir un cadre d'analyse, comme je vous le disais au début, qui intègre à la fois les aspects productifs, mais aussi résidentiels, touristiques, des espaces ruraux, pour essayer donc de voir un petit peu à quoi, hein, quels sont les moteurs de la revitalisation donc rurale. Donc là, je vais vous présenter donc ce cas théorique, une typologie donc des bassins de vie ruraux, et puis donc notamment on va là parler de ce qu'on appelle donc l'économie résidentielle, hein, qui est vraiment devenu un terme et une notion très à la mode en matière de développement local. Vous parlez d'économie présentielle, alors parce qu'il y a des confusions entre ces deux termes, et voilà. Bien, donc le cadre conceptuel, il est simple, hein, à l'origine de tout cet engouement autour de l'économie résidentielle. Donc le cadre conceptuel, il est simple, c'est celui de la théorie de la base. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un classique là aussi, hein, de ce qu'on peut enseigner dans des cours de développement local ou de géographie économique. Ou d'économie régionale. Donc, théorie de la base, c'est une vieille théorie que l'on doit probablement à Sombart dans les années en 1916, qui a été très utilisée dans les années 50 jusqu'au milieu des années 80 et qui est tombée en désuétude pour diverses raisons, je passe vite. Bref. Et donc, par contre, donc Laurent Davzy a proposé donc une réhabilitation et de revisiter un peu cette théorie de la façon suivante. Alors ça, c'est le cadre habituel, pas revisité, qui nous dit tout simplement, donc cette théorie, elle nous dit tout simplement qu'une économie locale peut se décomposer en deux secteurs. Un secteur basique, qui permet de capter des revenus à l'extérieur du territoire, on fait rentrer des revenus. Et puis un secteur donc domestique, enfin des secteurs, on va voir bien sûr, domestiques, qui eux répondent à la demande locale. Hein, c'est les commerces, les services de proximité, les activités culturelles, sociales, médicales. C'est ce qui est consommé localement par des gens qui habitent là ou qui sont là, hein, des présents ou des résidents, peu importe. En tout cas, c'est la consommation locale. Donc le secteur basique, c'est le moteur de l'économie locale. Vous faites rentrer de l'argent. Et puis cet argent, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit dépensé localement, il faut qu'il y ait une circulation de richesses, il faut qu'il y ait une propension à consommer localement, maximiser la présence, bref, pour qu'il y ait donc pour que ça entraîne le secteur domestique. Vous avez des effets retours, enfin peu importe, donc c'est simple, hein, c'est très keynésien, hein, c'est un effet par néoclassique, enfin bref, c'est captation de revenus à l'extérieur en amont, et puis après c'est un effet de consommation, de circulation de richesse qui fait que vous avez un rapport entre les deux types de secteurs. Donc c'est simple. Ce qu'a apporté donc Laurent Davzy, et c'est là qu'est sortie donc cette idée d'économie résidentielle, c'est de dire, dans les secteurs basiques, dans les moteurs des économies locales, vous avez plusieurs choses, plusieurs types de revenus. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on a considéré comme base, comme secteur basique, uniquement une entrée par l'emploi, c'est-à-dire une entrée par des secteurs d'activité exportateurs. C'est-à-dire on considérait comme moteur, mais on considère encore ça en fait, hein, dans beaucoup de schémas de pensée, ou par exemple dans les services de développement économique de nos collectivités locales, si vous allez les voir, vous leur demandez de vous parler, hein, de leur politique de développement économique, ils vont vous répondre zone d'activité, tant d'entreprises installées sur le territoire, et les entreprises installées sur le territoire, ils ne vous parlent pas du boulanger, etc. Hein, ils parlent des entreprises exportatrices. Donc on est encore dans cette idée que le moteur, le secteur basique, la seule façon de capter des richesses à l'extérieur d'un territoire, c'est quand même d'avoir des grosses entreprises implantées sur votre territoire qui vendent au reste du monde. En contrepartie de quoi, on a des revenus, on a des emplois, on a des salaires, etc. Donc nous, ce que l'on dit avec Laurent Davzy, c'est que, bon, évidemment qu'il y a première source de revenus extérieurs, cette base productive privée, hein, des activités productives, ce que je viens de vous raconter, ces entreprises qui exportent et qui font entrer du revenu. OK. La majorité des travaux, que ce soit la nouvelle économie géographique dont je vous ai parlé avant, ou Pekeur et tout ce qui est développement endogène, systèmes productifs locaux, etc., se focalisent sur la base productive privée. Le développement économique dépend avant tout des entreprises localisées dans un territoire. Et puis c'est peut-être l'image que vous en avez, j'en sais rien. Mais il y a d'autres revenus, hein, qui font vivre un territoire. Vous avez ce que, bon, nous, au début, on a appelé ça base résidentielle, et puis c'est parti dans la nature, et puis voilà, le public s'est approprié en termes d'économie résidentielle. base résidentielle, là, on prend en compte des revenus qui n'ont rien à voir avec les atouts productifs d'un territoire. On prend en compte des revenus qui sont apportés par des résidents ou des résidents temporaires, c'est les touristes, et on prend en compte les dépenses des touristes. Un touriste ne vient pas parce qu'il y a une belle zone d'activité, au contraire, hein, à la limite. Des retraités qui viennent s'installer, des résidents secondaires, des migrants alternants, c'est-à-dire des gens qui habitent dans mon territoire mais qui n'y travaillent pas. On est là sur un enjeu de population, hein, sur la mise en valeur des atouts résidentiels d'un territoire. Troisième type de revenu, la base publique, c'est-à-dire l'ensemble des salaires des fonctionnaires qui, eux aussi, participent à l'économie locale. Et puis, quatrième type de revenu extérieur, la base sociale et sanitaire, c'est-à-dire toutes ces prestations sociales et les remboursements de soins de santé. Tout ça, c'est pour dire finalement qu'on a quand même une vision très réduite quand on se base uniquement sur la production pour comprendre le développement économique local, alors même qu'on a un éventail, une palette d'actions, ça veut dire aussi, hein, pour les acteurs locaux, beaucoup plus large. Hein. Donc c'est plutôt. Alors au début, certains ont refusé, hein, l'idée de dire ah oui, mais on ne va pas quand même attirer des retraités, les touristes. Bon, le tourisme, hein, c'est toujours un peu mal vu, alors même que c'est la première industrie mondiale, mais bon, c'est pas, voilà, ça ne fait pas très économique de parler de ça. Alors même que c'était une bonne nouvelle, c'était de dire justement au territoire, vous n'avez pas qu'un levier d'action, vous aviez deux, bon, public et social, on ne peut pas faire grand-chose, hein, mais productif et résidentiel, ça veut dire que vous avez deux leviers d'action pour agir sur le développement de vos territoires, développement économique. Et puis on a mesuré ce que pesaient ces différents revenus. Alors on a mesuré ce que pesaient ces différents revenus, je vous montrerai après plus spécifiquement sur les espaces ruraux, mais sachez que globalement, en France, les derniers travaux qu'on a faits pour la Caisse des dépôts et consignations, qui viennent de paraître, on est sur, donc à l'échelle des zones d'emploi françaises, on a à peu près moins d'un quart, hein, 22-23% des revenus extérieurs, donc des moteurs, si vous voulez, des territoires français, 22-23%, c'est de la base productive privée. Donc il se trouve qu'en plus, quand on se focalise que là-dessus, on se focalise sur quelque chose qui représente un quart des revenus. Hein, c'est quand même, ça ne suffit pas. C'est équivalent, ces 22-23%, à ce que pèse la base sociale et sanitaire. Évidemment, hein, on est dans un pays où on a encore une redistribution publique, hein, massive qui explique, hein, ces points importants. Donc moins d'un quart la base productive privée, moins d'un quart équivalent à peu près la base sociale et sanitaire. La base publique, on est à peu près à 10%. Et puis la base résidentielle, c'est pour ça évidemment qu'il y a tout cet engouement là autour de l'économie résidentielle, c'est pas que pour ça, mais qui pèse donc un peu plus, 42 à peu près, pour cent des revenus extérieurs. C'est colossal, ne serait-ce que par le poids des retraités, hein, le poids des retraites dans les revenus en France. Hein, c'est énorme. C'est 200 milliards chaque année de revenus qui peuvent être, hein, dépensés où l'on veut, sans condition de localisation par rapport à l'emploi, en tout cas. Hein, sans lien avec la production actuelle. Passée, oui, mais pas actuelle. Bref. Donc, finalement, on raisonne, c'est assez simple, hein, notre schéma, quand on fait des diagnostics, etc., on dit, voilà, le développement local, en tout cas d'un point de vue économique, vous avez un moteur, c'est l'ensemble de ces revenus captés à l'extérieur. Attention, vous n'avez pas que du productif, vous avez aussi du résidentiel, aussi du public, aussi du social, etc. Mais ça ne suffit pas. Hein, capter des richesses, ça ne suffit pas. Vous pouvez être très fort, vous pouvez être un territoire qui sait bien capter ses revenus extérieurs, mais ses revenus repartent aussitôt. C'est les espaces périurbains, par exemple, c'est les cités dortoirs. Vous avez plein de gens qui arrivent, mais finalement, ils ne consomment pas, ils font peu de choses sur place. Et puis, ce n'est pas des territoires qui sont forcément dynamiques sur différents aspects. Donc, vous avez une boîte importante, c'est la consommation, qui est une boîte noire, parce que vous n'avez pas de base de données en France territorialisée qui permettent de travailler sur la consommation. Alors, on se débrouille pour travailler sur ce qu'il y a en amont de la consommation, c'est-à-dire sur la demande, et c'est là que notre notion de présence est importante, parce que plus vous avez des territoires où les gens sont présents, enfin plus on est présent et plus on a de chances de consommer dans un territoire. Le périurbain, ben vous avez des taux de présence en journée, les gens ne sont pas là, ils ne consomment pas là. Donc on travaille sur la présence comme ça, Et puis, vous avez ce qui se passe donc en amont et en aval, vous avez l'impact de cette consommation. C'est-à-dire que si ces revenus sont captés à l'extérieur, consommés localement, vous le voyez quand vous analysez l'emploi. Vous voyez les commerces qui se développent, les services à la personne, tout ce qui va être autour du culturel, du social, de l'associatif aussi. Vous avez tout un, l'économie sociale et solidaire aussi qui se développe rapidement dans ces territoires qui réussissent à dérouler la chaîne jusqu'au bout. Et puis évidemment, si vous avez un territoire vivant, en tout cas où vous avez des activités, une offre culturelle, une offre de services, etc., ça attire des personnes, etc. Bon, alors ça, c'est un schéma. Évidemment, vous, tous les territoires n'ont pas un mode de fonctionnement comme ça, circulaire. Vous avez donc des territoires où ça grippe à plusieurs niveaux de ce schéma de développement local. Vous avez des territoires pour lesquels le moteur est en panne, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas capter des revenus à l'extérieur. Vous avez des territoires qui captent des revenus, mais où la consommation ne se fait pas localement. C'est typiquement des zones périurbaines. Et vous avez des territoires qui captent des revenus à l'extérieur, qui savent faire en sorte que la consommation, une partie de la consommation se fait globalement, localement, mais où vous avez des trappes de pauvreté qui restent là. Moi, j'avais vu ça en travaillant pour la communauté d'agglos de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que finalement, les emplois ne sont pas occupés par les jeunes locaux. Donc là, vous avez un désajustement en fin de chaîne, en fait. Bref, et donc voilà l'estimation des revenus basiques, ce que je viens de vous dire, là, les 23, 24%, etc., à l'échelle des zones d'emploi françaises. Donc là, je l'avais calculé pour les bassins de vie ruraux, en distinguant trois types de bassins de vie, mais bon, là, ça n'a pas grande importance pour la présentation. J'avais distingué les bassins de vie qui sont centrés sur un pôle rural, les bassins de vie où on a plutôt du rural isolé, du rural sur faible influence urbaine, peu importe. Vous voyez que quel que soit le type de bassin de vie, la première source de revenus est largement la base résidentielle. On est à plus de 60%, on va dire deux tiers en moyenne sur les espaces ruraux. Les revenus captés à l'extérieur sont dus à la base résidentielle. Alors on va me dire oui, parce qu'il y a beaucoup de retraités. Oui, mais ça ne pèse pas beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de retraités, mais qui ont des revenus de retraite à la limite plus faibles qu'ailleurs. Par contre, ce qui crée la différence, c'est le tourisme. Les dépenses touristiques, l'apport de revenus touristiques dans les espaces ruraux, c'est un apport colossal de revenus. La base publique est plus faible qu'en moyenne sur les bassins de vie français, la base sociale et sanitaire légèrement plus faible, et puis vous voyez la base productive. De toute façon, tout est plus faible, la base résidentielle par jeu d'équilibre en pourcentage. La base résidentielle est tellement importante, notamment en raison du tourisme, que finalement, les espaces ruraux apparaissent comme des espaces très résidentiels. Ça bouscule l'idée de le rural, la production, etc. Le rural, c'est d'abord un espace résidentiel et récréatif aujourd'hui, et c'est ce qui explique sa revitalisation. Ça ne veut pas dire, mais je veux dire en conclusion, que la production ne compte pas, le développement productif ne compte pas. Bien, à partir de ça, j'ai donc dressé une typologie d'espaces ruraux, qui est une typologie faite sur ce qui les caractérise en matière de moteur économique. Donc, par exemple, dans les territoires en bleu, j'ai mis productif, migrant alternant, ACEDIC, parce qu'il y avait beaucoup d'apports de revenus sociaux ACEDIC des chômeurs, mais ça veut dire qu'il y a des actifs, quoi, en fait. Ça ne veut pas dire, là, que le poids du revenu résidentiel est faible. Ça veut dire que par rapport à la moyenne des bassins de vie ruraux, on distingue, il y a beaucoup plus de revenus productifs. Bref. Donc, en bleu foncé, vous avez des territoires productifs plutôt périurbains, ruraux périurbains. En vert, vous avez des territoires productifs et agricoles, avec des dynamiques très différentes selon que ces territoires sont à l'est ou à l'ouest. À l'ouest, ils sont beaucoup plus dynamiques parce que portés par des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, qui est un secteur qui continue à voir ses emplois progresser, même en période de crise. Retraite et agriculture en jaune, retraite et tourisme en gris, tourisme en rose, et puis retraite, tourisme, revenus sociaux en orangé. Ce que j'ai fait, mais c'est illisible, mais c'est pas grave, c'est que j'ai regardé après, selon ces différentes typologies, quelles étaient les dynamiques territoriales. Et on se rend compte, je vous parlerai de l'urbain après, on se rend compte que dans le rural, les territoires qui enregistrent donc les plus fortes progressions d'emplois, de revenus, vous pouvez multiplier les indicateurs, les territoires les plus dynamiques sont les territoires les plus résidentiels et touristiques. Aujourd'hui, les territoires, quand on parle de renouveau rural, premier sur la liste, les territoires très résidentiels, très touristiques, et puis vous pouvez faire un ordre comme ça décroissant jusqu'aux territoires productifs qui sont finalement ceux qui connaissent au contraire plutôt un déclin des départs migratoires, etc. Donc on pourrait dire tout va bien, il n'y a qu'à se spécialiser dans ces tant que si on peut, cette économie résidentielle et touristique. Mais vous voyez, il y a un mais, alors, okay, j'essaie de grossir, mais il faudrait mettre encore plus gros. Évidemment que ces dynamiques résidentielles et touristiques ont des limites. Et notamment, on se rend compte que dans ces territoires qui sont extrêmement dynamiques, vous avez aussi une dynamique qui est très forte, c'est celle des inégalités. Et c'est-à-dire que cette économie résidentielle a des bons côtés, j'y reviendrai en conclusion, mais elle a aussi des effets très néfastes, des effets néfastes en termes d'inégalités, d'exclusion de certaines populations par des pressions foncières, des problèmes aussi environnementaux, etc., etc. Trop d'économie résidentielle tue l'économie résidentielle, mais c'est un peu vrai pour tout système de développement. Ensuite, vous avez donc des territoires périurbains. C'est ce que je vous disais, on a un dynamisme démographique, mais le reste ne suit pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un essor d'emploi, il n'y a pas forcément une amélioration des revenus par habitant. Là, vous avez des évasions de consommation qui fait que, bon, ces territoires, on y est, on y occupe, on y consomme de l'espace et des terres, mais finalement, ce n'est pas pour autant que ce sont des territoires vivants, on va dire. Et puis, vous avez du rural qui est évidemment encore fortement marqué par ces espaces de production, avec des choses très différentes selon que cette production est générique, et on retrouve mes catégories, enfin ce que nous explique la nouvelle économie géographique, donc du rural, de la production générique, c'est-à-dire qui peut être délocalisée, qui n'est pas ancrée dans le territoire, où là on est sur les territoires qui subissent, et là c'était avant la crise, mes analyses, donc après crise c'est encore pire, c'est les territoires les plus touchés par la crise économique. Et puis du rural productif plus spécifique. Alors, c'est des petites choses, mais là, au contraire, où on est justement ancré dans les territoires où on ne peut pas délocaliser, où ça se passe là et pas ailleurs, et où là, donc, on a une certaine forme de protection par rapport à la mondialisation des échanges, d'autant que ces territoires productifs sont aussi des territoires spécifiques, sont aussi des territoires touristiques et attractifs. Et c'est la combinaison des deux qui donne un modèle de développement sur lequel on travaille là à Grenoble, dans mon laboratoire, et qui nous semble un modèle intéressant pour certains territoires. Dans l'urbain, puisque j'ai travaillé sur d'autres territoires que des espaces ruraux, les territoires les plus dynamiques, et alors pour le coup, là justement, où on a des inégalités qui progressent comme partout, mais enfin progressent moins, on va dire, ce sont les territoires équilibrés, c'est-à-dire et productif et résidentiel. Typiquement, c'est des territoires comme Nantes qui jouent la double carte. On a pas mal travaillé avec Jean-Marc Hérault qui joue la carte résidentielle sans perdre d'attractivité auprès des emplois métropolitains supérieurs, etc. Tout le discours sur le productif, mais couplé à une attractivité résidentielle. Les territoires les plus pénalisés sont encore les territoires les plus productifs. Sur ces histoires d'économie ou de mécanismes résidentiels, on a des aspects positifs. Ce sont des puissances, ces revenus qui n'ont rien à voir avec la production, ce sont de puissants facteurs de développement socio-économique, des espaces ruraux en l'occurrence, mais des territoires en général. Ça peut être facteur de cohésion sociale et spatiale, mais on verra qu'il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est cette présence de retraités de tourisme et de touristes, finalement, elle favorise un type d'emploi dans les commerces, dans les services, etc. Il y aura le revers de la médaille sur la faiblesse des revenus, mais il y a un côté positif, c'est que ce sont des emplois aussi qui ne sont pas délocalisables et qui offrent des débouchés, enfin pour avoir vécu dans des territoires fortement concernés par ces dynamiques-là, qui offrent des débouchés à des jeunes peu qualifiés, qui de toute façon n'auraient pas pu rester sur place parce qu'il n'y a pas le lieu d'activité productive, il n'y a plus rien, et qui finalement peuvent y rester parce qu'il y a ce type d'emploi. Mais attention, conséquences inquiétantes, facteurs d'inégalité, justement, parce que les nouveaux arrivants arrivent avec des plus forts revenus que ceux qui étaient là. Faiblesse des revenus et problème, évidemment, de stabilité de rémunération de ces emplois. Quand je dis domestique, c'est tout ce qui est des emplois de consommation, services à la personne, etc. Problème aussi ou inquiétude sur la mobilité. C'est-à-dire que ces populations qui participent à l'économie résidentielle sont aussi des personnes très mobiles. Et donc, on a évidemment des questions, enfin des interrogations sur les pressions environnementales, les risques face aux crises énergétiques. Saturation foncière où loger les actifs, toute cette économie repose sur une rente paysagère, environnementale, hein, on vient pour un paysage, etc. Et tout ça, c'est très fragile finalement, même si les élus s'en rendent pas forcément compte. On a des conflits d'usage entre les nouveaux arrivants, et bon, donc il faut gérer ça. Et puis on a des effets plus lourds, finalement, qui sont des effets macroéconomiques, c'est-à-dire qu'on ne peut de toute façon pas imaginer, en tout cas ça serait catastrophique, que tous les territoires se mettent à vouloir faire du résidentiel. C'est-à-dire que pour que des territoires captent de l'argent, pour capter des revenus, il faut bien que ces revenus soient créés quelque part. Et la création de richesses, elle reste quand même conditionnée à l'échelle nationale par la production, par nos exportations. Donc le fait que nos territoires, par exemple l'Île-de-France, les plus productifs, soient aussi les territoires les plus répulsifs, n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'ensemble des territoires. Parce que tout ça, c'est un jeu d'équilibre et de redistribution, de circulation des richesses. Et c'est d'autant plus inquiétant que la réforme de la taxe professionnelle, je peux vous dire qu'elle a fait vraiment changer les discours. C'est-à-dire que quand on arrivait, il y a 2-3 ans encore, avec ces histoires d'économie résidentielle, on disait « oui, mais quand même, on ne veut pas être un territoire sous perfusion, hein, c'est tous les aspects négatifs, etc. » Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de primes, enfin, en tout cas, on ne sait pas comment elle va évoluer, mais grosso modo, pour faire vite, vu qu'il n'y a plus de primes à l'emploi productif, beaucoup d'élus se disent « je ne vais pas continuer à faire des zones d'activité, ça coûte cher, ça fait fuir ma population, etc. Je vais plutôt préserver un paysage, un mode de vie, etc. » Ça a changé les représentations et les actions menées. Sans compter que la réforme de la taxe professionnelle, là, la CET, favorise, et d'autant plus, enfin, elle va être favorable, ça va relancer aussi la construction de commerces et de centres commerciaux parce que vous avez une prime. Enfin, c'est un calcul pas fait exprès, mais ça y est, c'est bon, ils ont bien compris. Vous allez gagner plus si vous ouvrez ce genre de commerce plutôt qu'une zone d'incinération, une zone industrielle. Bien, en conclusion de conclusion, et c'est la dernière, ce qu'il faut bien avoir en tête, en tout cas dans ces logiques de développement, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à faire. Moi, ce que je pense, en tout cas ce sur quoi je pose mes travaux, c'est cette idée donc, que l'enjeu du développement local, il est triple, et ça va, il est trois bons ensemble. C'est un enjeu de création de richesses, de production, d'économie productive. C'est un enjeu de captation de richesses, parce que ce n'est pas négligeable et autant s'en servir, en jouant sur les atouts résidentiels, c'est l'économie résidentielle. Et troisième temps, c'est un enjeu de circulation de richesses. Il ne suffit pas d'être champion de production ou champion d'attractivité auprès de nouvelles populations. Il faut aussi faire en sorte que les territoires dans lesquels vivent les gens puissent aussi être agréables à vivre. Et ça passe, alors c'est une approche économique, ça passe par les services, la consommation, le milieu associatif, etc. etc. Ces trois sphères-là, complètement interdépendantes, et à mon avis qui est un triptyque plutôt équilibré pour le développement économique d'un territoire, finalement, on peut se dire aussi que c'est des temps d'un cycle, c'est-à-dire que PRC, c'est production, revenu, consommation. Ça, c'est le cycle classique en économie. On pense, d'abord, il y a de la production, ça génère des revenus, ces revenus, ça génère de la consommation. C'est comme ça qu'est étudié le cycle économique. Donc, quand on a commencé à travailler sur ces histoires d'économie résidentielle, on s'est surtout intéressé aux revenus extérieurs, l'économie résidentielle, qui génère de la consommation. Mais depuis, moi, j'ai quand même travaillé sur cette offre de commerce, de services, d'économie sociale et solidaire, etc., comme source de revenus et comme attractivité des territoires. C'est la consommation qui devient un attracteur de revenus extérieurs et qui, elle-même, conditionne la production. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui sont plus ou moins bien équipés. Ceux qui sont mieux équipés attirent plus de revenus extérieurs et ces revenus qui sont des gens extérieurs qui s'installent, créent aussi de l'activité et de la production. Je vous parlais des professions libérales, des consultants ou d'autres types d'activités dans la construction, dans le BTP, beaucoup de choses aussi, qui vont dans ce sens-là. Voilà. Mais tout ça, ce sont des travaux en cours. C'est fini. Merci.